Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, à Genève, la chef des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, fait le bilan de sa première année à ce poste. Des experts onusiens dénoncent un climat de peur au Burundi moins d'un an avant les élections. Le Conseil de sécurité discute aujourd'hui de la situation en Libye. Et en dossier, une responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés nous alerte sur le sort de milliers d'enfants réfugiés qui n'ont pas accès à l'éducation. Lors d'une conférence de presse à Genève tirant le bilan de sa première année à la tête du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet a expliqué les frustrations et les peurs qu'elle a pu rencontrer sur la situation des droits de l'homme dans le monde aujourd'hui. Elle s'inquiète de deux tendances qui évoluent dans des directions opposées. On l'écoute.
Le monde n'a jamais été aussi interconnecté et l'impact des violations des droits de l'homme dans une partie du monde peut avoir de graves répercussions dans une autre partie du monde. Nous l'avons vu avec les personnes fuyant leur pays à cause de conflits armés, de l'insécurité, de l'oppression politique, de la crise climatique et du manque de protection des droits économiques, sociaux et culturels. Nous l'avons vu avec les incendies qui font rage en Amazonie et avec la fonte de la calotte glaciaire au Groenland et ailleurs. Nous le voyons avec les discours de haine et la rhétorique raciste et xénophobe qui peuvent se répandre ouvertement sur l'Internet et les médias sociaux. La violation des droits de l'homme concerne tout le monde. Notre paix et notre sécurité, nos économies dépendent de la promotion et de la protection des droits de l'homme où que nous vivons. Malheureusement, les tendances nous mènent dans la direction opposée. La souveraineté et les frontières nationales sont invoquées pour empêcher que des questions relatives aux droits de l'homme ne soient soulevées et abordées de manière concertée. La communauté internationale, y compris nous-mêmes, est avertie de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des États du monde entier. Il s'agit d'une préoccupation mondiale et je dirais d'une tendance à la hausse. Donc ces deux tendances qui évoluent dans des directions opposées semblent nous éloigner de plus en plus des solutions globales aux problèmes mondiaux.
La commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi a dénoncé mercredi, dans un nouveau rapport, les violations graves des droits de l'homme commises dans ce pays à moins d'un an des élections présidentielles, parlementaires et locales. Le rapport parle d'un climat de peur et d'intimidation. Au micro d'Alpha Diallo, le président de la commission d'enquête, Doudou Diène, explique comment ce climat se manifeste au quotidien pour des milliers de Burundais.
Et ça se manifeste de manière absolument évidente, c'est-à-dire que les arrestations continuent, nombreuses, les disparitions, dont beaucoup forcées, parce que toute disparition qui n'est pas identifiée devient forcée, importante. Le fait que les libertés fondamentales d'expression, d'information et de communication ne sont plus possibles d'être exercées au Burundi. Le fait que l'impunité n'a pas été remise en question, etc. C'est-à-dire que ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme, qui ont été dénoncés pas seulement par la commission d'enquête, mais d'autres mécanismes, n'ont pas été poursuivis, notamment les membres des Imbonerakure et certaines institutions de l'appareil d'État. Tout cela continue. C'est-à-dire que ce que nous l'avons traduit tout cela par un concept persistance des violations des droits de l'homme. Alors la question centrale pour nous, maintenant en 2019, dans la perspective des élections de 2020, c'est de savoir si la situation va passer de persistance des violations à l'aggravation des violations.
Les Nations Unies resteront en Libye. C'est le message qu'a transmis aujourd'hui l'envoyé de l'ONU dans le pays aux membres du Conseil de sécurité après la mort le 10 août dernier de trois membres de la mission onusienne à Benghazi. Ghassan Salamé a appelé le Conseil de sécurité et la communauté internationale à aider à mettre fin au conflit en Libye. Pascal Sim nous en dit plus.
Les Libyens méritent mieux, a déclaré Ghassan Salamé devant le Conseil de sécurité, soulignant qu'une solution militaire au conflit est tout simplement une chimère. Cinq mois après le début de l'offensive du général Haftar sur Tripoli, plus de 100 civils ont été tués et plus de 300 autres ont été blessés, a indiqué l'envoyé de l'ONU. Une autre génération de jeunes hommes libyens répandent leur sang sur le champ de bataille, quand leurs compétences pourraient être mieux utilisées pour reconstruire le pays, a-t-il déploré. Ghassan Salamé a demandé au Conseil de sécurité de condamner les bombardements aveugles contre les civils. En Libye, les combats continuent dans le sud et les enlèvements et disparitions forcées se poursuivent dans tout le pays. Malgré l'annonce de la fermeture du centre de Tajoura, frappé par un bombardement meurtrier en juillet, des migrants continuent d'y être envoyés, ces derniers étant toujours victimes de détentions arbitraires et de mauvais traitements. Le représentant spécial a souligné que la violence en Libye est toujours exacerbée par la fourniture d'armes, de munitions et de matériel de guerre. Ghassan Salamé a encouragé le Conseil de sécurité à envisager d'ajouter au mandat de la mission de l'ONU en Libye une provision permettant un soutien à tout cessez-le-feu conclu entre les parties, quelle que soit sa forme.
Alors que des millions d'enfants à travers la planète commencent leur nouvelle année scolaire, quelques 3,7 millions d'enfants réfugiés n'y auront pas droit. C'est ce qu'indique le dernier rapport sur l'accès des réfugiés à l'éducation qui vient d'être publié par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Qui sont ces enfants? Où se trouvent-ils? Autant de questions que Christina Silvero a posées à Cécile Schmitt, chargée d'information au HCR à Paris.
Nous publions maintenant pour la quatrième année consécutive un rapport sur l'accès à l'éducation des enfants réfugiés. Et la situation est très compliquée pour de nombreux réfugiés dans le monde, puisque sur les plus de 7 millions d'enfants qui sont réfugiés dans le monde, plus de la moitié ne va pas à l'école, donc n'a pas accès à une éducation formelle. Ce sont 3,7 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école.
Alors, qui sont ces enfants? Où se trouvent-ils? C'est des garçons, des filles?
Alors, la situation change en fait au fur et à mesure que les enfants grandissent. Donc, en ce qui concerne l'éducation primaire, même si dans le monde, plus de 90% des enfants ont accès à l'éducation, pour les réfugiés, ce ne sont que 63% des enfants qui ont accès à l'éducation. Ensuite, le chiffre baisse encore, la proportion baisse encore pour l'accès à l'éducation secondaire, où 84% des enfants dans le monde ont la possibilité, vont à l'école secondaire, c'est-à-dire au collège, au lycée. Seulement 24% des enfants réfugiés qui ont l'âge de fréquenter une école secondaire fréquentent réellement une école secondaire. Et ensuite, pour l'éducation supérieure, donc l'université, les formations professionnelles supérieures, ce ne sont que 3% des jeunes réfugiés dans le monde qui ont accès à ces formations, contre 37% d'enfants dans le monde. Donc où sont-ils? La majorité des réfugiés se trouvent dans des pays en voie de développement, dans les pays qui sont directement voisins des pays qu'ils ont fui. Ce sont quelques pays dans le monde qui accueillent la majorité des réfugiés. Et donc ce sont principalement des pays qui sont voisins de la Syrie, voisins de l'Afghanistan, voisins du Soudan du Sud. Ce sont dans ces pays-là que se trouve la majorité des enfants réfugiés.
Que faut-il faire?
Alors tout d'abord, il y a une priorité maintenant qui est de permettre l'accès à l'éducation secondaire des enfants. Donc augmenter les possibilités pour les enfants d'avoir accès à l'éducation secondaire parce que c'est la clé pour ensuite aussi accéder à l'enseignement supérieur. Et pour cela, nous lançons une initiative pour permettre à plus d'enfants réfugiés d'accéder à l'éducation secondaire. Et dans cette initiative, nous appelons différents acteurs à intervenir, à s'engager, les gouvernements, les donateurs, le secteur privé, mais aussi les écoles, les universités. Ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est avoir assez d'écoles pour permettre aux enfants d'aller à l'école secondaire, donc c'est-à-dire construire aussi parfois des écoles secondaires, former des professeurs, parce que très souvent, il n'y a pas suffisamment de professeurs. Parfois, un professeur peut avoir une classe de 200 élèves. Former des professeurs, mais aussi aider les familles, parce que aussi, parfois, les enfants réfugiés ne vont pas à l'école parce qu'ils doivent aider leur famille à subvenir aux besoins de la famille.
Le HCR appelle notamment à intégrer les enfants réfugiés dans les systèmes scolaires nationaux aussi. Est-ce que c'est vraiment réaliste quand on parle de pays qui sont en voie de développement, dont les systèmes d'éducation sont probablement déjà assez stressés?
La solution, en effet, pour permettre aux enfants réfugiés d'avoir accès à l'éducation, c'est de permettre aux enfants réfugiés d'aller à l'école dans les pays dans lesquels ils sont réfugiés. Et cela, permettre en fait aux enfants réfugiés d'accéder à l'école dans ces pays-là, c'est-à-dire qu'il faut aider le système éducatif dans ces pays-là, et donc cela profite aussi aux enfants des pays qui accueillent les réfugiés, puisque dans des pays qui accueillent les réfugiés, parfois il y a également des problèmes en fait d'accès à l'éducation, et donc le fait de renforcer les capacités à la fois en école mais aussi de formation des professeurs profite à tout le monde.
C'est de l'aide humanitaire mais aussi du développement.
C'est effectivement vraiment faire le lien entre l'aide humanitaire et le développement et investir dans l'éducation des enfants réfugiés parce que cela profitera à l'avenir des enfants réfugiés mais aussi des pays qui les accueillent.
Voilà, fin de ce journal de Nuit Info. Retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.